wanted and told, hesitating once more. And as I take on myself and the bitterness I felt, realize that love flows wild, white horses, they will take me away. Tenderness I feel will send the dark underneath. Will I follow through the glory of life? I will scatter on the floor, disappointed and sore. In my thoughts I have bled for the riddles I've been fed. Another lie moves over. Wild white horses, they will take me away. And that tenderness I feel will send the dark.
Quartier, peu importe quoi que ce soit. Moi, je vois une radio dans ma rue, j'ai qu'à ouvrir ma fenêtre tous les jours pour voir ce qui s'y passe. C'est pas la peine d'avoir une radio de quartier, ça ne signifie rien. C'est complètement imbécile. C'est l'aberration démocratique, ça. À force de vouloir. Alors, tout le monde va parler. Or, malheureusement, parler, c'est un art.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Et partout ailleurs sur principeactif.net.
Très bien, nous allons essayer de ne pas lambiner, ne pas tergiverser, ne pas nous égarer.
Principe Actif, le mix des cultures.
I don't intend to be. près 6h du matin, ici dans nos studios à Paris, 2h de moins en temps universel. Vous écoutez RFI. Et le journal est signé Jeanne Bartoli. Bonjour Jeanne.
Et bonjour Vincent et bonjour à tous. Dans ce journal, la dernière journée de la visite d'État de Donald Trump en Chine. Le président américain reçu en ce moment au siège du Parti communiste chinois à Pékin. Une visite qui aura été marquée par la mise en garde de Xi Jinping concernant Taïwan. Mais on verra que les traductions des propos du président chinois ne sont pas les mêmes selon les pays. Dans cette édition également, le Mali et les rebelles indépendantistes du Front de libération de la Zawad qui affirment détenir plus de 200 militaires maliens considérés comme des prisonniers de guerre à Kidal. L'ONU qui salue une contribution américaine d'1,8 milliard de dollars pour son bureau des affaires humanitaires, l'OCHA. On parlera également de la visite du directeur de la CIA, John Ratcliffe, à la Havane, c'était hier. Et puis l'actualité en France, un adolescent de 15 ans tué hier soir à Nantes dans une fusillade sur fond de narcotrafic. Un garçon de 13 ans entre la vie et la mort. Le ministre de l'Intérieur se rend sur place ce matin. Donald Trump reçu donc en ce moment par Xi Jinping au siège du Parti communiste chinois à Pékin. Seuls quelques dirigeants américains ont eu accès à ce quartier général ultra sécurisé. Dernière journée en Chine pour Donald Trump. Après un déjeuner de travail, il reprendra l'avion en début d'après-midi au terme donc de 2 jours de visite placée malgré le faste sous le signe des tensions mondiales et bilatérales. Et en dehors des annonces commerciales, notamment l'achat de Boeing par la Chine par exemple, ce qu'on retiendra de cette visite, c'est l'avertissement lancé par Xi Jinping sur Taïwan. Le président chinois estime que l'administration américaine doit faire très attention à la manière dont elle traite le dossier, sans quoi Washington et Pékin pourraient entrer en confrontation, et ça n'a l'air de rien, mais le choix des mots de Xi Jinping sera pesé avec beaucoup de précautions aux États-Unis. Alors faut-il y voir la menace d'un conflit en cas de désaccord ou juste un vocabulaire imagé du président chinois? Ce n'est pas très clair à Washington. Vincent Sourieux.
L'agence officielle qui relate les discours de Xi Jinping, c'est l'agence Xinhua. Mais voici sa traduction française des propos du président chinois. Si la question de Taïwan n'est pas traitée correctement, les deux pays connaîtront, je cite, des heurts, voire des conflits. Fin de citation. Les universitaires américains, eux, décryptent cette notion depuis des années. Et ce n'est pas si simple, car ce terme qui fait polémique, Dao Zhong, renvoie à l'idée de lutte. Par exemple, de lutte des classes dans la culture marxiste. Et au lieu de la guerre ou du conflit, on s'approcherait plus, écrivent plusieurs chercheurs, d'un concept philosophique lié à la résilience, à l'endurance ou à la détermination face à l'adversité. Les analystes américains qui y voient au contraire un appel à la confrontation directe avec les États-Unis se placent à droite de l'échiquier politique. En 2023, un sinologue, ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale de Donald Trump, voyait ainsi dans cette expression un message très clair. Il s'agit, disait-il, d'intimider Taïwan et d'en prendre le contrôle par la force. Vincent Sourieux, Washington.
Et au sujet du détroit d'Ormuz, la Chine a de nouveau réclamé ce matin, en parallèle de la visite de Donald Trump, un cessez-le-feu complet au Moyen-Orient et la réouverture du détroit dès que possible. Donald Trump qui a affirmé perdre patience avec l'Iran, il l'a dit dans une interview diffusée hier soir aux États-Unis en marge donc de sa visite en Chine. Illustration du regain de tension constaté dans le Golfe. Un navire indien transportant du bétail depuis l'Afrique vers les Émirats Arabes Unis aurait été attaqué au large d'Oman, puis redirigé jeudi vers l'Iran. D'après la firme britannique de sécurité maritime Vanguard, le navire a été atteint par un missile ou un drone ayant provoqué une explosion. Et puis concernant les négociations pour mettre fin à la guerre entre le Hezbollah et l'armée israélienne, des délégations libanaises et israéliennes se rencontraient hier à Washington. Discussion positive selon la diplomatie américaine à 2 jours maintenant de la fin théorique, c'est-à-dire demain, de la trêve en cours au Liban. Direction à présent le Mali, je vous le disais en titre, les rebelles indépendantistes du Front de libération de la Zawad affirment détenir plus de 200 militaires maliens considérés comme des prisonniers de guerre à Kidal. Cette ville du nord du pays a été prise à l'armée malienne et ses partenaires russes de l'Africa Corp le 25 avril dernier lors d'une offensive menée conjointement avec les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Selon le FLA, plusieurs dizaines de militaires maliens auraient été tués lors de ces combats. Les autorités maliennes de transition n'ont communiqué ni sur le bilan des attaques du 25 avril, ni sur le cas de ces militaires maliens capturés. Précisément, précisions, David Bachet.
Sur une vidéo, on peut voir plusieurs dizaines de soldats maliens assis dans une cour, en civil. Les rebelles indépendantistes du FLA affirment détenir plus de 200 militaires de tous grades, capturés à Kidal lors des combats du 25 avril et dans les jours qui ont suivi. Certains ont été rattrapés dans leur tentative de fuite, d'autres débusqués en ville où ils se cachaient. Après la défaite, les Russes de l'Africa Corps, partenaires de l'armée malienne, avaient négocié avec le FLA pour sortir de Kidal sains et saufs. Les soldats maliens laissés derrière eux sont désormais considérés par le FLA comme des prisonniers de guerre. Ils sont bien traités, assure le porte-parole du FLA Mohamed El Maouloud Ramadan, qui invite les ONG internationales à venir s'en assurer. Les rebelles ne réclament aucune rançon, ils finiront par être libérés dans le cadre de négociations. Mais quand, on ne sait pas encore, explique encore le porte-parole. Les rebelles détenaient déjà une vingtaine de soldats maliens et deux Russes capturés en 2023 et 2024. Il y a trois semaines, le FLA a pris Kidal aux côtés des djihadistes du Jnim. Mais selon un chef militaire du FLA, tous les soldats maliens capturés sont pris en charge par le FLA seulement. Sollicité par RFI, l'armée malienne n'a pas donné suite.
David Bachet, 6h passé de 6 minutes à l'écoute d'RFI, une journée de deuil national observée aujourd'hui à Kiev après une nuit de bombardements russes sanglants sur la capitale ukrainienne. C'était la nuit dernière, le dernier bilan fait état de 24 morts. Et puis cette fois en Russie, on apprend ce matin qu'une attaque ukrainienne a fait 3 morts et 12 blessés dans la ville russe de Ryazan, au sud-est de Moscou. C'est ce qu'annonce le gouverneur local. C'est une visite rare, la première fois qu'un avion gouvernemental américain se pose dans la capitale cubaine depuis 2016. Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, était hier à La Havane pour une réunion exceptionnelle avec de hauts responsables cubains, alors que l'île, soumise à un blocus pétrolier de Washington, fait face à une très grave crise énergétique, au point que cette semaine, le gouvernement communiste s'est dit prêt à examiner une offre d'aide de 100 millions de dollars par Washington, une offre états-unienne jugée hypocrite par l'économiste cubain Omar Everlini. Écoutez.
C'est particulièrement immoral. Ils bloquent l'entrée des navires pétroliers et ensuite ils disent vouloir nous proposer une aide financière. Mais si la situation est si mauvaise, c'est à cause d'eux. Les gens sont partagés. Certains disent cette aide c'est toujours bon à prendre car on est dans une situation désespérée. Mais pourquoi les États-Unis ne permettent pas au Mexique ou au Venezuela de nous envoyer un navire pétrolier? Cuba paye pour ce pétrole avec l'envoi de médecins cubains. Les problèmes les plus compliqués auxquels l'île fait face, c'est à cause des sanctions imposées par les États-Unis. Même si c'est vrai que beaucoup de difficultés sont liées à des décisions internes et auraient pu être résolues si le gouvernement avait plus ouvert le pays à l'économie de marché ou plus libéralisé l'agriculture et le secteur privé.
L'économiste cubain Omar Everlini, joint à La Havane par Jessica Brumec de la rédaction en espagnol d'RFI. En Syrie, à présent, après 15 ans d'absence liées aux sanctions contre le régime Assad, Visa et Mastercard font officiellement leur retour dans le pays. L'Union européenne vient également de réactiver son accord de coopération avec Damas, alors que plusieurs grandes entreprises occidentales annoncent leur retour dans le pays. Sur le papier, la Syrie se reconnecte donc progressivement à l'économie mondiale, mais sur le terrain, ces changements restent encore très limités pour une grande majorité de Syriens. Reportage à Damas, Mohamed Erami.
À Damas, les logos Visa et Mastercard réapparaissent dans quelques hôtels et commerces. Le pouvoir syrien présente ce retour comme un symbole de normalisation économique après la levée progressive des sanctions occidentales. Mais sur le terrain, les usages restent encore très limités, comme l'explique l'entrepreneur syrien Hassan Aked.
Aujourd'hui, tout fonctionne encore presque uniquement avec du cash, avec la nouvelle monnaie et l'ancienne encore en circulation. Le retour de Visa et Mastercard pourrait faciliter les échanges et aider aussi les petites entreprises.
Pour beaucoup de Syriens, l'urgence reste surtout la crise bancaire et économique. À Damas, un client rencontré explique avoir l'équivalent de 50 000 dollars bloqués à la banque sans pouvoir les récupérer. Dans ce contexte, le retour des cartes internationales reste pour beaucoup un symbole plus qu'un changement concret du quotidien.
Moi, le retour de la carte bleue Visa, ce n'est pas ma priorité. Ce que je demande, c'est de pouvoir entrer dans ma banque, donner mon numéro de compte et pouvoir avoir mes fonds à disposition sans qu'on me refuse mes retraits.
Après 15 ans d'isolement, la Syrie tente de se reconnecter aux circuits économiques internationaux. Mais dans un pays où plus de 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté, la reprise reste encore largement hors de portée pour une grande partie des habitants. Mohamed Erami, Damas,
RFI.
C'est en apparence une bonne nouvelle pour l'ONU. Les États-Unis ont promis hier 1,8 milliard de dollars pour le Bureau des Affaires Humanitaires de l'ONU, l'OCHA. Depuis le début de l'année, l'administration de Donald Trump a repris son financement des opérations humanitaires de l'ONU. Raison avancée pour justifier ce demi-tour. L'OCHA aurait amélioré son efficacité, comme le demandait Donald Trump. Mais cela ne signifie pas pour autant le retour de l'âge d'or du financement humanitaire par Washington. À New York, les précisions de Karine Dotton.
Après l'annonce du retrait américain de tout le circuit humanitaire, y compris à l'ONU, la contribution de Washington à 0 $ a poussé OCHA l'an dernier à remettre à plat tout son fonctionnement, couper son budget 2026 de moitié aussi pour assister les 87 millions de personnes les plus en danger au lieu des 345 millions qui en auraient besoin. Satisfaction de l'administration Trump qui fait son retour à l'ONU avec cette récompense de 3,8 milliards de dollars de contribution à OCHA, alors que même sous l'administration Biden, l'agence onusienne ne récoltait au mieux qu'une dizaine de millions de dollars. L'ambassadeur américain a expliqué que cette contribution était la preuve que les États-Unis ne s'étaient pas retirés des efforts humanitaires. Mike Waltz.
Un discours circule selon lequel les États-Unis se seraient retirés. C'est absolument faux. Ce sont des fake news. Les chiffres que nous annonçons ici aujourd'hui garantiront que chaque dollar versé parviendra véritablement aux personnes dans le besoin.
Pourtant, cet accord entre les États-Unis et l'agence onusienne cache le fait que Washington, qui finançait 35% de toutes les causes humanitaires confondues dans le monde en 2023 et 2024, n'en a financé plus que 14% l'an dernier. En fait, l'administration précédente finançait toutes les ONG, y compris celles de l'ONU, à hauteur de 11 milliards de dollars en 2024, contre 4 milliards versés l'an dernier. Karine Otten, New York, RFI.
L'actualité en France à présent, un adolescent de 15 ans tué hier soir à Nantes dans une fusillade sur fond de narcotrafic. Deux autres mineurs ont été blessés, dont un garçon de 13 ans, entre la vie et la mort. Les tirs ont eu lieu vers 19h30 dans le hall d'un immeuble d'un quartier populaire du nord de Nantes. Les auteurs présumés des coups de feu venus sur un deux roues ont pris la fuite. Le ministre de l'Intérieur est attendu sur place ce matin. Enfin, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, se déclare fier de l'attaquant du FC Barcelone, Lamine Yamal, qui a brandi un drapeau palestinien pendant la parade du sacre du Barça. C'était lundi. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, s'en était alors pris à la star espagnole, affirmant qu'il avait choisi d'inciter à la haine contre son pays.
RFI, toute l'actualité.
Jeanne Bartoli.
Il est 6h13 à l'écoute de la Radio du Monde. Vous restez avec nous 15 minutes d'infos et de reportages à suivre. On vous emmène dans la vieille ville de Jérusalem où les chrétiens, touristes ou responsables religieux font face à une hostilité croissante pouvant aller jusqu'à des agressions. Nous serons aussi en Russie pour parler des coupures d'internet, tout particulièrement dans le cadre des célébrations du 9 mai le week-end dernier. Coupures qui mettent en difficulté de nombreux secteurs économiques alors que la croissance a été revue à la baisse et que la guerre en Ukraine pèse lourdement sur les finances publiques russes. L'invité culture, l'historien Guillaume Blanc, qui sort avec le dessinateur Chico Pacheco un roman graphique, Les Sacrifiés du Paradis, enquête au cœur du colonialisme vert. Et puis comme tous les matins, le Conseil Santé, ce sera avec Caroline Paris. C'est une image qui a fait scandale, y compris en Israël. Une religieuse française à terre après avoir été violemment agressée dans le quartier du Mont Sion à Jérusalem, tout près de la vieille ville. L'homme qui l'a poussée à terre avant de lui donner des coups de pied est soupçonné d'être un extrémiste juif. Il a été arrêté. Cette agression qui n'est pas isolée dans ce quartier de Jérusalem où les chrétiens font face à une hostilité croissante. C'est un reportage de Frédéric Misselin.
Si vous regardez les statistiques, vous verrez que nous avons certains points chauds pour la violence antichrétienne. Le premier, c'est ici, le Mont Zion.
C'est là que se trouve l'abbaye de la Dormition. Et un peu plus loin, le Cénacle. Pour les chrétiens, c'est là que le Christ aurait pris son dernier repas. Juste après, le tombeau de David, lieu sacré pour les juifs. Le frère Nicodémus explique que sur ce chemin, il a été harcelé à plusieurs reprises.
Il y a 23 ans, lorsque je suis entré dans la vie monastique, il y avait des crachats et des attaques. Ça se produisait déjà, disons, tous les 3 mois, dans l'obscurité, personne autour, pas de témoins oculaires, enfin vous voyez. Maintenant, ça arrive en plein jour. Ceux qui font ça, je les appelle les hooligans de la religion. Leur idéologie, c'est Israël pour les juifs, les non-juifs, dehors.
Non juifs out of the country. Non.
Celle qui anime la volonté et rend ta vie active. Vivant comme un condamné qui n'a plus de temps à vivre. J'ai profité de l'instant comme on profite d'un livre. J'ai écouté l'histoire qui me chuchotait à l'oreille. Choisis la connaissance, elle dort avec l'éveil. Tu seras heureux, même avec peu d'oseille. Et une âme généreuse, tu auras mon émerveil. Dès que j'arrive, le stéréotype se brise. Le showbiz se fige et arrête de se faire la trise. On me regarde sous ma capuche de Jedi. Les langues se délient, mais pas un et deux tailles. Ça fait 20 piges qu'ils ne pigent rien, ils sont tous bloqués. Le rap français c'est de la merde comme le rock français. Tu m'étonnes que je vous regarde du haut des favelles de Rio. De là pour voir votre ego et votre bas niveau. Sous ma capuche j'ai le flow.
que personne n'a. J'ai des textes que personne n'a. Les sujets que je développe, c'est dans 10 ans que tu les comprendras. Aucun vécu, aucun style, aucune vertu, aucune maille. Tu veux tester l'artiste au poids politique, mais je te taille. Petite racacacaille, je te ratatataille. Retourne te branler sur tes forums et chute dans leur faille. Ici s'analyse l'époque, ton hip-hop, plus la pop, plus la pop, plus la pop, plus la pop. Je fais ce que je veux, c'est ça qui les rend nerveux. Ils aimeraient que je sois comme eux, mais je suis trop courageux. Trop classique, trop fantastique, trop rien à dire, trop bionique. Futuristique, métaphysique, ton rap est vraiment trop cheap. Le mien est calligraphique, historique, géométrique. Goofy tellement pas français, coricain, il en met l'Afrique. Au Brésil, tape dans le mille, ne monte pas sur mon ring. Tu finiras au fond de l'abîme, plein d'écrans comme l'eau débile. Dès que j'arrive, les stéréotypes se brisent. Le showbiz se fige et arrête de se faire la bise. On me regarde sous ma capuche de Jedi. Les langues se délient, mais pas un et deux tailles. Ça fait 20 piges qu'ils ne pigent rien, ils sont tous bloqués. Le rap français c'est de la merde comme le rock français. Tu m'étonnes que je vous regarde du haut des favelles de Rio. De là on voit votre ego et votre bas niveau. Kiki qui coque personne, flow flow qui pète des tonnes. Riri rim qui résonne, même quand je suis à Fonne. Pas Paris, la Paris, quand j'ai gagné mon pari. D'être celui qui abattrait les aboutis. Tire, tire. Qu'ils se tirent, qu'ils se retirent. Moi j'attaque tous les empires depuis que je suis dans leur ligne de mire. J'ai l'effet, je fais l'effet d'un fait bien fait. J'ai le mec qui met les meilleurs de portée quand j'ai aimé. Je suis le flow qu'il faut quand faut faire disparaître les faux. Yeah, j'ai les mots qui s'additionnent et au bout qui guérissent nos mots. Donc pour ceux qui me suivent depuis que j'ai écrit mes textes petits, savent que je suis l'esprit qui s'inspire au milieu des pitchs et des folies. Passant les décennies, lançant mes albums comme des frisbees. Sous ma capuche de Jedi, j'ai le vécu d'une galaxie. Dès que j'arrive, les stéréotypes se brisent. Le showbiz se fige et arrête de se faire la bise. On me regarde sous ma capuche de Jedi. Les langues se délient, mais pas un et deux tailles. Ça fait 20 piges qu'ils ne pigent rien, ils sont tous bloqués. Le rap français c'est de la merde comme le rock français. Tu m'étonnes que je vous regarde du haut des favelles de Rio. De là on voit votre ego